Zoom sur le handicap, une émission pour et par les personnes en situation de handicap, en partenariat avec l'APEAI de Figeac, présentée par Pascal Combon.
Bonjour et bienvenue à chacun dans Zoom sur le handicap. Aujourd'hui, nous sommes en liaison téléphonique avec Marie-Noël Amari. Nous allons pouvoir comprendre comment, malgré un handicap, il y a possibilité d'exercer une profession de responsabilité, et cela grâce aussi à des associations spécialisées. Bonjour Marie-Noël, pouvez-vous en quelques mots vous présenter ?
Oui, bien sûr. Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, je m'appelle Marie-Noël Armari, j'ai 57 ans, j'habite à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et j'enseigne les mathématiques dans un lycée de la ville. J'étais malvoyante de naissance et puis en 2009, suite à un décollement de rétine, j'ai perdu complètement la vue. Et depuis peu, grâce à une intervention chirurgicale, j'ai retrouvé un peu de lumière et de contraste. Donc ma vie quotidienne s'est améliorée récemment.
Quels ont été vos motivations pour choisir votre métier d'enseigner ?
Bon là, je crois que c'est parce que j'aime parler avant tout, partager tout ce que je sais, c'est-à-dire aussi bien des savoirs théoriques que pratiques, comme des recettes de gâteaux ou des informations. C'était d'abord cela, mais avec la pratique, avec l'expérience du métier, c'est finalement le contact humain et les relations tissées au jour le jour avec les élèves qui m'ont donné le goût de poursuivre.
Quel est votre parcours professionnel ?
Eh bien, après des études de mathématiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse, j'ai passé le CAPES en 1983 et j'ai été nommée comme bon nombre de débutants dans l'Académie d'Amiens. J'ai passé 8 ans, ensuite je suis revenue sur l'Académie de Toulouse. Un an à Vic-en-Bigorre d'abord dans les Hautes-Pyrénées, 15 ans à Figeac et ensuite depuis 2007 je suis à Tarbes. Je me suis rapprochée de ma famille étant donné que je suis originaire des Hautes-Pyrénées.
Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre parcours lié à votre déficience visuelle ?
Eh bien, tout d'abord, j'ai eu une scolarité ordinaire, d'abord dans l'école de mon village, ensuite au collège et au lycée à Lourdes, et ensuite à Toulouse. Ordinaire, bon, moi j'avais des difficultés pour lire, mais je me mettais toujours au premier rang. En classe, on ne s'en rendait pas compte. Moi, ça me prenait plus de temps pour les devoirs à la maison. J'avais besoin d'un éclairage particulier, mais je compensais. Donc, jusqu'au concours, je n'ai pas eu d'aménagement particulier. C'est moi qui m'organisais, qui compensais. Je faisais illusion. Par contre, quand je me suis inscrite pour le CAPES de mathématiques, là, j'ai dû signaler mon handicap. Et là, j'ai commencé à remplir les dossiers COTOREP, les commissions médicales. Et là, vraiment, j'ai pris conscience que je relevais de la qualité de travailleur handicapé. Par contre, je n'ai pas voulu faire de dossier médical pour éviter une mutation dans le Nord. Je voulais partager le sort de mes camarades et puis, bon, voir du pays aussi. Donc, je suis partie dans le Nord. J'avais juste spécifié que je n'avais pas le permis de conduire, bien sûr, compte tenu de mes problèmes de vue. Donc, j'ai été nommée dans des villes desservies, entre guillemets, par la SNCF. C'est-à-dire, ça pouvait être des petites villes avec juste un car SNCF, mais... Voilà, donc après mon métier, je l'exerçais normalement jusqu'en 2003. Et là, ma vue s'est dégradée petit à petit. Donc j'ai commencé à avoir des assistants au niveau de mon travail. Et en 2009, quand j'ai perdu complètement la vue, là, j'ai bénéficié d'un poste adapté. Je pense qu'on en reparlera plus tard.
Oui. De ce que vous venez de nous dire tout à l'heure, vous venez de nous parler de la COTOREP. Pour nos auditeurs, pouvez-vous préciser ce que c'est la COTOREP ?
Oui, alors c'est l'ancêtre de la MDPH. C'était la commission qui gérait le travail des personnes handicapées. Donc c'est ce qui existait avant la maison départementale des personnes handicapées.
Avec ce handicap, quelle était votre vie au quotidien ?
Eh bien, au quotidien, j'ai toujours tenté d'être le plus autonome possible. Je ne voulais pas être un boulet par rapport à ma famille, par rapport à mes amis ou mes collègues. Donc, bon, quand j'étais gamine et puis adolescente, mes parents m'entouraient beaucoup de leur affection et puis de leur logistique aussi. Donc je n'ai pas vraiment souffert. Ensuite, le plus difficile, c'était les déplacements. Quand on ne peut pas conduire, ben, il faut s'adapter par rapport au transport, au déplacement. Donc je me suis toujours débrouillée pour habiter près de mon lieu de travail, près des commodités. Après, il faut s'organiser d'une certaine façon, anticiper les déplacements, s'organiser pour les courses. Quand on ne peut pas remplir le coffre de la voiture une fois par mois, ben, on s'organise différemment. Donc c'est devenu pour moi une seconde nature de compenser, d'anticiper, d'organiser. Et finalement, quand j'ai perdu complètement la vue, j'avais déjà complètement intégré tout ça, tout ce phénomène de compensation, d'adaptation. Donc ça a été une étape supplémentaire à franchir, mais ça n'a pas été le cataclysme que les gens imaginent, parce que tout s'est fait naturellement, d'adaptation en adaptation.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez été soutenu par votre famille, les amis et les collègues de travail?
Oui, alors ma famille est un soutien de chaque instant. Ça, ils sont toujours présents quand j'ai besoin. Ils ont toujours favorisé mon travail, mon autonomie, et ils ont toujours soutenu mes choix, même si ça leur faisait peur, s'ils s'inquiètent encore pour moi, parce que quelquefois, je me lance un peu dans des choses, un peu des aventures, on va dire. Mais ils ont toujours soutenu mes choix, fait en sorte que ça réussisse. Ils m'ont toujours mis dans des conditions de réussite. Mes amis, pareil, hein, s'ils sont devenus mes amis, s'ils ont sympathisé avec moi, c'est qu'ils m'acceptaient comme j'étais, avec mes déficiences et mes compétences. Quand on partait entre copines, bon, louer une voiture, moi, j'avais pas mon tour de conduite, mais en compensation, ben, je faisais l'intendance, où je m'occupais des comptes, j'ai toujours pris ma part dans les équipes. Pour les collègues de travail, je suis devenue vraiment handicapée quand je suis arrivée avec une canne blanche. Auparavant, ils ne se rendaient pas compte de mon handicap. Bon, je mettais bien un peu le nez sur la feuille quand il fallait lire, mais pour eux, j'étais myope, pas plus, quoi. Ils ne se rendaient pas compte réellement de l'ampleur du handicap. Mais vraiment, la canne blanche, là, c'est le symbole du handicap par excellence, je crois. Donc c'est à ce moment-là que le comportement des gens a un petit peu changé. Mais ça a toujours été positif, ça a toujours été dans la bienveillance.
Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières rencontrées au quotidien?
Alors la difficulté, c'est une barrière un peu dans la tête, c'est faire la démarche de devoir demander de l'aide, perdre son autonomie, ça c'est vraiment faire la démarche, apprendre à demander. Et quand j'ai suivi la réadaptation, quand j'ai perdu la vue, on nous a appris à faire cette démarche-là. À savoir demander, à savoir oui, s'appuyer aussi sur les autres pour pouvoir avancer. Tu vois, pour moi, ça a été ça le plus dur. Et puis, bon, concrètement, quand j'ai perdu la vue, le plus difficile, ça a été aussi de me lancer toute seule la première fois dans la rue avec la canne, mettre en application ce que j'avais appris en théorie, et puis avec quelqu'un qui marchait trois pas derrière moi pour me surveiller. Mais le jour où j'ai pris la décision de me lancer toute seule dans la rue, c'était un défi, hein, je ne suis pas allée bien loin, mais ça, c'était difficile. C'est comme quand on apprend à faire du vélo et qu'un jour, on enlève les petites roues, quoi. Vraiment se lancer, c'est ça. Ça a été le plus difficile. Mais après, une fois qu'on est parti et que ça marche, là, c'est une victoire. C'est vraiment un Himalaya qu'on a grimpé.
Faisons une courte pause musicale. Écoutons « J'ai demandé à la Lune » d'Indochine.
Thank you.
Par liaison téléphonique sur Radio Présence, nous recevons aujourd'hui Marie-Noël Amari. Elle a un handicap lié à une déficience visuelle. Dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué sa profession et la vie au quotidien pour une personne malvoyante. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la vie en société avec les personnes malvoyantes. Diriez-vous que de nos jours, la société s'adapte aux personnes malvoyantes?
Alors, je pense qu'il y a des progrès. De plus en plus, on fait attention aux personnes handicapées en général, des aménagements en ville pour les malvoyants. Il y a des bandes de guidage dans les lieux publics, il y a des feux sonores qui sont équipés. Bon, je pense qu'il y a un progrès. Ce n'est pas encore parfait, mais ça a un coût aussi. Et bon, je pense que grâce aux associations, grâce aux commissions, dans les mairies, il y a des choses qui progressent. Ensuite, sur le plan pratique, il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour les malvoyants avec du matériel adapté, du matériel vocalisé. Bon, il faut vraiment s'adresser aux associations pour avoir ce type d'informations et être concerné par le handicap pour avoir accès à cette information. Mais il y a des progrès pour la vie quotidienne, je dirais.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Bien, je voudrais encourager des personnes qui viennent de perdre la vue et les personnes qui les entourent également, parce que la cécité fait peur, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut se battre, il faut croire qu'on peut continuer à vivre. Tout ce qu'on a vécu avant, c'est une richesse en nous que personne ne peut nous enlever. Et grâce à des associations, surtout ne pas rester enfermé à la maison, on peut toujours progresser, on peut vivre le plus comme avant possible. Et il ne faut pas avoir peur, surtout ne pas avoir peur, avoir confiance.
Je vous remercie Marie-Noël, votre témoignage nous a enrichis. Cela nous a appris qu'il faut toujours se donner de l'espoir dans la vie, qu'il faut se battre et avec de la volonté, il est toujours possible de s'en sortir. La semaine prochaine, nous reparlerons du métier d'enseignant quand nous avons une déficience visuelle. Puis, nous donnerons quelques informations sur l'association Valentin Henry. Vous écoutez Radio Présence à Belmont-sur-Arance sur 93.1. À la technique, il y avait Armand. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission Zoom sur le handicap.
Zoom sur le handicap. Une émission pour et par les personnes en situation de handicap. En partenariat avec l'APEAI de Figeac, présentée par Pascal Combon.